시리오 시리오 가랑구 시리오 가랑구
D'être 18h à Niamey, tout de suite le journal en français de Studio Kalangu présenté par Reila Tsumana. Au sommaire de ce journal, les ressortissants maliens au Niger attendent avec impatience le jour J de l'élection présidentielle de leur pays qui aura lieu le dimanche 29 juillet prochain. À Ayourou, dans la région de Tillabéri, les populations maliennes déplacées dans cette région voteront au camp de réfugiés de Tabarbaré. À Zender, une soixantaine de maisons se sont effondrées et plusieurs têtes de bétail décimées suite à la forte précipitation enregistrée hier nuit dans la commune. Et dans la partie magazine de cette édition, il sera question du projet de production d'électricité nucléaire au Niger, un projet ambitieux que les autorités nigériennes espèrent concrétiser d'ici 2030. Bonsoir à tous. Les programmes de la radio et télévision Labari sont suspendus depuis ce matin suite à la fermeture de l'organe pour non-paiement d'impôts. Labari vient s'ajouter aux deux groupes de radio et télévision Niger 24 et Canal 3 qui restent toujours fermés pour les mêmes motifs. Aussi, deux hebdomadaires L'Actualité et La Griffe sont également touchés par ces mesures de fermeture, des mesures qui font suite à un redressement fiscal opéré par la direction des petites et moyennes entreprises à l'encontre des médias. Je l'annonçais dans les titres, les réfugiés maliens du département d'Ayourou dans la région de Tillabéri se préparent eux aussi pour l'élection présidentielle malienne du dimanche prochain. Ils sont surtout heureux de pouvoir voter cette fois-ci dans le camp de réfugiés de Tabarbaré situé dans la même région. Abdoulaye Amadou a recueilli les avis de certains d'entre eux.
C'est pour que la situation qui prévaut dans notre pays trouve une solution, que Dieu l'assiste. C'est tout ce que nous demandons. Maintenant, nous sommes venus pour accomplir notre droit civil. Nous avons appris qu'il va avoir un bureau de vote à Tabarbaré. Et dès que nous l'avons appris, nous étions très contents. Si cela est concrétisé, c'est une avancée par rapport aux années antérieures où il fallait se déplacer jusqu'à l'intérieur du Mali. Les politiciens qui vous transportent jusqu'au bureau de vote sont très motivés pour vous transporter. Mais après avoir accompli votre devoir, il va falloir se débrouiller pour revenir de là où tu as quitté.
Depuis que j'ai commencé à voter, je l'ai toujours fait à Tillabéri. Cette année aussi, nous avions pensé le faire là-bas. Nous souhaitons que le vainqueur soit un véritable patriote. Tous les candidats sont les nôtres.
Le ministre chargé des relations avec les institutions était dans la région d'Agadez cette semaine pour l'évaluation de la présente campagne agricole. À la fin de sa mission, Youssoufou Bakay tire la synthèse au micro d'Anissé Karim.
Sur le plan agricole, le démarrage a été précoce. 38% des villages ont semé et la situation phytosanitaire est calme. Les semences, tout comme les engrais, sont disponibles dans toute la région. La situation phénologique, elle est déficitaire, sauf à Ingal et à Arlit. Les écarts de pluie ont été constatés, des écarts négatifs. Et par rapport à la situation des cultures, elle est moins satisfaisante d'une manière générale que 2017. La situation à Crédan également, elle est normale. Et la sécurité alimentaire également, elle est satisfaisante. L'espace a été prévu pour construire la maison du paysan. Sur le plan pastoral, nous assistons à la formation progressive des tapis herbacées. La santé animale également, elle est calme. Les mares sont pleines. Les colis ont également coulé. La vaccination a été effectuée et l'aliment bétail a été mis en place, ce qui a permis quand même de sauver beaucoup d'animaux pendant les périodes les plus dures. Ce qui concerne le pâturage, on assiste à la levée avancée et à la germination du pâturage, c'est-à-dire du tapis herbacé. Les prix des animaux sont moyennes, mais le terme de l'échange, il est en défaveur de l'éleveur.
Dans la région du fleuve Tillabéri, la campagne agricole 2018 a bien démarré selon les services techniques. À la date d'aujourd'hui, tous les villages agricoles ont semé. L'État et ses partenaires ont apporté des appuis conséquents. Plus de précisions avec Zakari Saïdou, directeur régional de l'agriculture au Micré d'Aruna Soumaï.
Nous avons presque 2000 tonnes de semences améliorées au niveau de l'ensemble de la région de Tillabéri. Nous avons aussi 653 tonnes d'engrais aussi. Nous avons plus de 4000 litres de pesticides, presque 3000 sachets de fongicides. Nous avons aussi placé 67 champs écoles paysans pour 1430 producteurs à encadrer. Nous avons eu les premiers semis de 41 villages pendant la deuxième décade du mois de mai jusqu'à la deuxième décade du mois de juin où nous avons les 207 villages qui ont semé. Nous avons 3% des villages qui n'ont pas semé, ce qui fait 68 villages au niveau du département de Torodi et de Abala. Les produits alimentaires sont disponibles sur l'ensemble des marchés. La vente des céréales à prix modéré et la distribution gratuite ciblée dont nous ont permis de bloquer, si on peut le dire, la montée qui un temps était observée d'une manière exagérée.
La Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a conclu avec la Suisse un accord mutuellement bénéfique portant sur un montant de 3 milliards de francs CFA pour stimuler l'investissement dans le secteur de l'élevage des pays côtiers de l'espace CEDEAO, rapporte la Commission dans un communiqué publié hier. La signature de cet accord devrait renforcer les activités d'élevage et la production agricole de l'ensemble des 15 pays constituant la CEDEAO, a par ailleurs précisé le communiqué. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers temps dans la commune rurale de Walelewa, région de Zender, ont occasionné des dégâts importants. Selon le maire de la localité, en attendant une assistance humanitaire, toutes les dispositions ont été prises pour reloger les sinistrés. Maman Manou, maire de la commune rurale de Walelewa, joint au téléphone par Mokhtar Hamadou.
Rien que dans cette semaine, il y a eu 4 pluies consécutives, pas moins de 40 mm. La nuit du 24 juillet, là, il y a eu une pluie de 50 mm à Walelewa. Et entre autres, la même pluie est tombée 85 mm à Gangara, qui est à côté à 18 km. Donc la conjonction de ces deux eaux-là ont débordé et sont rentrées dans le village de Walelewa. Et c'est celui qui a un quartier qui est bâti juste à côté de la rivière. Et c'est ce quartier-là qui a chuté. Donc il y a une quarantaine de maisons, plus précisément 49 maisons qui sont tombées. Heureusement, il n'y a que des dégâts matériels, il n'y a pas de personnes humaines. Automatiquement, nous avons informé le préfet de Tanou, qui est venu avec son équipe technique. On a fait des constats et on a écrit, on a déposé des requêtes et on attend. Maintenant, sur le plan local, la commune a essayé de localiser les gens, les amener dans les classes et on leur a apporté les premiers secours. Donc, ça a coïncidé avec la vente à prix modéré. Donc, la commune a acheté une partie des céréales et a mis à la disposition de ces gens-là.
C'était Maman Manou, maire de la commune rurale de Walelewa, propos recueillis par Mokhtar Hamadou. À Zender aussi, de fortes précipitations ont été enregistrées la nuit dernière sur le premier arrondissement communal de la ville. Le bilan provisoire fait état de blessés et d'importants dégâts matériels. Le service de la protection civile et les agents d'assainissement de la ville recensent tous les sinistrés afin de les identifier. Maman Chipkaou, vice-maire du premier arrondissement communal de Zender, au micro d'Ali Keta.
Nous avons enregistré 96 mm et on a eu quand même pas mal de dégâts. Dieu merci, nous n'avons pas eu de perte en vie humaine, mais on a eu une personne fracturée suite à un effondrement d'un mur. Il était de passage en partant à la mosquée, le mur est tombé, donc il y a eu une fracture. On a perdu quand même pas mal de cheptels. Et maintenant, nous avons aussi de la mare de Gandeslik jusqu'à Taolala, a resté pour le moment des maisons complètement effondrées qui avoisinent les 60. Nous avons donc pris les dispositions pour les transférer dans des écoles les plus proches. Mais encore, nous notons que l'école de Savangari est en train d'être menacée par la mare de Gandeslik. Elle est complètement inondée, une inondation qu'on n'a jamais vue au premier arrondissement.
Autre aspect de cette édition, la date du premier vol vers les lieux saints de l'islam est prévue pour le 2 août 2018. Que peut-on retenir sur les préparatifs du Hajj 2018 au niveau des différentes agences? El Hadj Moumouni Amadou, président de l'Association nationale des agences de pèlerinage, répond au micro de Gungu Mohamed Dantani.
En ce qui concerne les agences, tout est presque fin. À ce moment-là, nous sommes en phase de visa. Et à la date d'aujourd'hui, il y a beaucoup de visas qui sont sortis. Pour le moment, il n'y a aucun problème. Les agences qui sont dans les premiers vols, que normalement, plus tard, les 30, les pèlerins doivent être à Niamey. Je pense que sur ce plan-là, les agences qui sont en contact direct avec les pèlerins. Donc, chaque groupe d'agences l'agence informera ses pèlerins à la date indiquée. L'obtention du visa est liée au contrat de logement. Quand on n'a pas signé les contrats de logement, donc on n'aura même pas les visas. Dès que les visas sortent, cela veut dire que les logements de Médine et de la Mecque sont garantis. Au niveau de l'implantation des pèlerins, il y a deux phases. Les séjours à Médine, les pèlerins se prennent en charge, et les séjours à la Mecque. Mais les passages à Mina et Arafat, la restauration a été incluse dans les tarifs du Hajj.
Toujours par rapport au Hajj, chaque année, le ministère de la Santé publique met en place un comité médical pour l'encadrement médical des pèlerins nigériens en Arabie Saoudite. Pour cette édition du Hajj 2018, l'équipe est rehaussée, passant de 14 à 21 médecins et agents de santé, toutes spécialités confondues. Une décision qu'apprécie le syndicat national des pharmaciens, médecins et chirurgiens-dentistes. Cependant, il déplore certains manquements. Suivez les explications du docteur Saïdi Abdulbak, membre du Saint-Famed.
14 membres, cette année, l'équipe est réussie à 21 membres. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est surtout par rapport au Kourou. Comme vous le savez, chaque année, avant de quitter, le ministère exige à ce que les futurs pèlerins fassent une consultation médicale pour savoir ceux qui sont aptes à aller faire le Hajj. Normalement, c'est le Kourou qui devait livrer ce carnet. Cette année, le Kourou n'a pas voulu prendre en charge ce carnet médical. Donc, ça veut dire que cette année, il n'y aura pas de consultation médicale. Vraiment, c'est une grande insuffisance par rapport à l'état de santé de ceux qui vont effectuer le déplacement à la Mecque. Parce que même avec ces consultations, il y a des gens qui frottent pour aller à la Mecque et créer tous les problèmes du monde à l'équipe médicale. Dans le rapport que l'équipe médicale de l'année passée a dressé, ils ont fustigé des cas qui ne devront même pas être à la Mecque, comme des cas d'avortement. C'est pour cela que vraiment nous avons voulu que ces consultations la soutiennent comme ça se fait depuis tout le temps.
Le commissariat à l'organisation du Hajj et de l'Umra Koho que nous avons contacté a confirmé que pour des raisons financières, cette année, il ne sera pas en mesure de prendre en charge les consultations médicales et les carnets médicaux des futurs pèlerins. Il est 18h passé de 11 minutes à présent la partie magazine de cette édition. La haute autorité nigérienne à l'énergie atomique Hania a élaboré un ambitieux programme électronucléaire pour le Niger. Le rapport de ce projet de production d'électricité à partir de l'uranium validé par l'Agence internationale de l'énergie atomique a été remis au gouvernement nigérien le 16 juillet dernier, selon le secrétaire général de la Hania, chargé du programme électronucléaire du Niger, qui a le soutien des plus hautes autorités et des partenaires techniques et financiers, sera concrétisé d'ici 2030. Jibo Takubakoye Daouda explique au micro de Moussa Hassan.
Un programme électronucléaire se produit de l'électricité à partir de l'uranium, axé en trois phases. Il y a une première phase d'évaluation de l'infrastructure nucléaire, une deuxième phase de mise en œuvre et la troisième qui est la phase de construction et d'exploitation. Nous venons de conclure la première phase avec les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui ont séjourné au Niger du 16 au 23 avril dernier et dont le rapport a été remis le 16 juillet passé. En matière d'énergie solaire, le Niger est parmi les meilleurs au monde. Cependant, en termes de nucléaire, le Niger est unique. Pour preuve, 1 kg d'uranium permettra d'alimenter la ville de Niamey pour plusieurs jours. Et aujourd'hui, nous vendons le kilogramme d'uranium à 10 000 francs CFA. Donc, l'esprit voudra bien qu'on pense, nous aussi, à mettre en valeur notre ressource qui est l'uranium. L'électricité est le premier produit de consommation courante. Et quand on prend aussi le développement industriel, l'énergie est la force motrice du développement. Nous avons fait la première phase qui comprend 19 domaines. Les experts uniquement nigériens, avec l'appui des experts de l'AIE, nous avons évalué principalement la sûreté, la sécurité, le financement, le développement de ressources humaines, les sites, la technologie, la gestion des déchets, ainsi de suite. Il ressort que nous avons cette recommandation et quelques suggestions. Ça veut dire que le Niger, pour la première phase, est classé premier en Afrique, deuxième au monde après la Croatie.
Après ces étapes et l'évaluation, quelle sera la prochaine étape ?
On va faire avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, un groupe qui sera composé d'experts nationaux et des experts de l'AIEA qui vont travailler ensemble sur tous les domaines, principalement le financement. Après cela, nous espérons finir l'étude des sites et faire la pose de la première pierre en décembre 2020. Débuter la construction en 2021, connecter au réseau deux unités de 1000 MW chacune en 2030.
Est-ce que vous avez le soutien politique? Que nous savons qu'en Afrique, souvent, ce n'est pas les projets qui manquent, mais le soutien politique.
La première chose qui a frappé l'AIEA, c'est la volonté politique du Niger. Le directeur général adjoint est venu pour la remise du rapport et en sortant, il a dit, dans tous les pays, c'est les techniciens qui poussent les politiques. Mais au Niger, c'est les politiciens qui poussent les techniciens.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.